Victor Hugo, La légende des siècles, nouvelle série, L'aigle du casque. Ô sinistre forêt, vous avez vu ces ombres passer l'une après l'autre, et parmi vos décombres, vos ruines, vos lacs, vos ravins, vos halliers, vous avez vu courir ces deux noirs chevaliers. Vous avez vu l'immense et farouche aventure. Les nuages qui sont errants dans la nature ont eu cette épouvante énorme au-dessous d'eux. La victoire fut sourde, l'exploit fut hideux. Et l'herbe et la broussaille, et les fleurs et les plantes, et les branches en sont encore toutes tremblantes. L'arbre en parle au rocher, l'antre en parle au menhir. Le vieux Mont Lothian semble se souvenir, et la fauve est en cause avec la tourterelle. Et maintenant, disons ce que fut la querelle entre cet homme fauve et ce tragique enfant. Le fond, nul ne le sait. L'obscur passé défend contre le souvenir des hommes l'origine des rixes de Ninive et des guerres d'Égine, et montre seulement la mort des combattants. Après l'échange amer des rires insultants. Ainsi, les anciens chefs d'Écosse et de Northumbre ne sont guère pour nous que du vent et de l'ombre. Ils furent orageux, ils furent ténébreux, c'est tout. C'est l'ombre lord se dévorait entre eux. L'homme vient volontiers vers l'homme à coups d'épée. Brosset Balliol comme César Pompée. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Passé, souffle du ciel. Dieu seul connaît la nuit. Le comte Strathael, roi d'Angus, père d'Écosse, est presque centenaire. Le gypaète cache un petit dans son air, et ce lord a le fils de son fils près de lui. Toute sa race, ainsi qu'un blême éclair à lui, et s'est éteinte. Il est ce qui reste d'un monde. Mais Dieu, près du front chauve, a mis la tête blonde. L'aïeul à l'orphelin. Jacques a 6 ans. Le lord, un soir, l'appelle et dit « Je sens venir la mort. Dans 10 ans, tu seras chevalier. Fils, écoute. » Et le prenant à part sous une sombre voûte, il parla bas longtemps à l'enfant adoré. Et quand il eut fini, l'enfant lui dit « J'irai !» Et l'aïeul s'écria « Pourtant, il est sévère en sortant du berceau de monter au calvaire. Et 16 ans est un âge où, certes, on aurait droit de repousser du pied le seuil du tombeau froid, d'ignorer la rancune obscure des familles et de s'en aller rire avec les belles filles. » L'aïeul mourut. Le temps fuit, 10 ans sont passés. Tiphaine est dans sa tour que protège un fossé, debout, les bras croisés sur la haute muraille. Voilà longtemps qu'il n'a tué quelqu'un, il bâille. 10 ans, cela suffit pour que les chênes verts soient d'une obscurité plus épaisse couverts. 10 ans, cela suffit pour qu'un enfant grandisse. En 10 ans, certes, Orphée oublierait Eurydice, admette son épouse et Thisbé son amant, mais pas un chevalier n'oublierait un serment. C'est le soir, et Tiphaine est oisif. Les mélèzes font au loin un bruit vague au penchant des falaises. Ce Tiphaine est le lord sauvage des forêts. Pas un loup n'oserait l'approcher de trop près. Il s'est fait un royaume avec une montagne. On le craint en Écosse, en Northumbre, en Bretagne. On ne l'attaque pas, tant il est toujours seul. Être dans le désert, c'est vivre dans un linceul, il fait peur. Est-il prince, est-il né sous le chaume? On le sait. Un bandit qui serait un fantôme, c'est Tiphaine. Et les gens et les lacs, les bois, semblent ne prononcer son nom qu'à demi-voix. Pourtant, ce n'est qu'un homme. Il bâille. Lord Tiffen a mis autour de lui l'effroi comme une chaîne. Mais il en sent le poids. Tout s'enfuit devant lui. Mais l'orgueil est la forme altière de l'ennui. N'ayant personne à vaincre, il ne sait plus que faire. Soudain, il voit venir l'écuyer qu'il préfère, Bernard, un bon archer qui sait lire, et Bernard dit « Milord, préparez la hache et le poignard. Un seigneur vous écrit. Quel est ce seigneur ? Sire, c'est Jacques, Lord Angus. Soit, qu'est-ce qu'il désire ? Vous tuer. Réponds-lui que c'est bien. » Peu de temps suffit pour rapprocher de hautain combattant et pour dire à la mort qu'elle se tienne prête. L'éclair n'entendrait pas Dieu lui criant « Arrête !» Arrivez, c'est la loi du sort. Il s'écoula une semaine, puis de l'orne à Knapdala, 12 sonneurs de corps en dalmatique rouge, fit recevoir à tous, aux manants dans leur bouge, aux prêtres en son église, aux barons dans sa tour, que Delorme entendait se rencontrer tel jour, que Saint-Gildas serait patron de la rencontre, et qu'Angus étant pour, Tiffen serait contre. Car l'usage est d'avoir un saint pour les soldats, en Irlande Patrick, en Écosse Gildas. C'est pour ou contre un saint que tout combat se livre, avec la liberté de fuir ou de poursuivre, d'être ferme ou tremblant, magnanime ou couard, cruel comme Beauclerc ou bon comme Édouard. L'endroit pour le champ clos fut choisi très farouche. Le dur hiver qui change en pierre l'eau qu'il touche ne laissait pousser là, sous la pluie et le vent, que des sapins cassés l'un par l'autre souvent, les arbres n'étant pas plus calmes que les hommes. Tout sur terre est en proie, ainsi que nous le sommes, au souffle, à la tempête, au funeste aquilon. Une corde est nouée au sapin d'un vallon. Elle marque une enceinte, une clairière ouverte sur des champs où la tweed coule dans l'herbe verte, lente et molle rivière aux roseaux murmurants, un pêle-mêle obscur d'arbres et de torrents, d'ombre et d'écroulement, de vie et de ravage, entoure affreusement la clairière sauvage. On en sort du côté de la plaine, et de là viennent les paysans que le corps appela. La lice est pavoisée, et sur les banderoles on lit de fiers conseils et de graves paroles. Brave qui n'est pas bon, n'est brave qu'à demi. Soyez hospitaliers, même à votre ennemi. Le chêne au bûcheron ne refuse pas l'ombre. Les pauvres gens des bois accourent en grand nombre. Plusieurs sont encore peints, comme c'étaient leurs aïeux. Des cercles d'un bleu sombre agrandissent leurs yeux. Sur leur tête attentive, étonnée et muette, les uns ont le héron, les autres la chouette. Et l'on peut distinguer, aux plumes du bonnet, les Scots d'Abernethy, des Pictes de Menhaith. Ils ont l'habit de cuir des antiques provinces. Ils viennent contempler le combat de deux princes, mais restent à distance et regardent de loin, car ils ont peur. Le peuple est un pâle témoin. Si l'on ne voyait pas au ciel le tatouage de l'azur, du rayon, de l'ombre et du nuage, on n'apercevrait rien qu'un paysage noir. L'œil, dans un clair-obscur, inquiétant à voir, s'enfonce, et la bruyère est morne, et dans la brume, on devine au-delà des mers l'éclat qui fume, ainsi qu'un soupir en enfer à l'horizon. Le juge du camp, fils d'une altière maison, Lord Kane, est assisté de deux crieurs d'épée. L'estrade est de peau d'ours et de rennes drapées. Les quatre exorciseurs, redoutés du sabbat, font la police, ainsi qu'ils s'y est dans un combat. Un prêtre dit la messe, et l'on chante une prose. Fanfare, c'est Angus. Un cheval d'un blanc rose porte un garçon doré, vermeil, sonnant du cor, qui semble presque femme et qu'on sent vierge encore. Doux être confiant comme une fleur précoce, il a la jambe nue à la mode d'Écosse, plus habillé de soie et de lin que d'acier. Il vient, gaiement suivi d'un bouffon grimacier. Il regarde, il écoute, il rayonne, il ignore, et l'on croit voir l'entrée aimable de l'aurore. On sent que dans le monde étrange où nous passons, ce nouveau venu, plein de joie et de chansons, tel que l'oiseau qui sort de l'œuf et se délivre, a le mystérieux contentement de vivre. Pas d'être éblouissant qui ne soit ébloui, il rit. Ses témoins sont du même âge que lui. Tous chantent légers, fiers, laissant flotter les brides. C'est Mar, Argyll, Athol, Othel, roi des Hébrides, David, roi de Stirling, Jean, comte de Glasgow. Ils ont des colliers d'or ou de roses au cou. Ainsi se pressent au fond des alliés, sous les aunes, derrière un petit dieu, les saints des jeunes faunes. Hurrah ! Cueillir des fleurs ou bien donner leur sang, que leur importe ? Autour du comte adolescent, page et roi, dont Hébé sera la sœur jumelle, un vacarme charmant de panache se mêle. Ô jeunes gens, déjà risqués, à peine éclos, son cortège le suit jusqu'au seuil du champ clos. Puis on le quitte. Il faut qu'il soit seul et personne ne peut plus l'assister dès que le clairon sonne. Quoi qu'il advienne, il est en proie au dur destin. On lit sur son écu, pur comme le matin, la devise des rois d'Angus, Christ et lumière. La jeunesse toujours arrive la première. Il approche, joyeux, fragile, triomphant, plume au front, et le peuple applaudit cet enfant, et le vent profond souffle à travers la campagne. Tout à coup, on entend la trompe des montagnes, chant des bois plus obscurs que le glas du beffroi, et brusquement on sent de l'ombre autour de soi. Bien qu'on soit sous le ciel, on se croit dans un antre. Un homme vient du fond de la forêt. Il entre. C'est Tiphaine. C'est lui. Hautain dans le champ clos, refoulant les témoins comme une hydre les flots, il pénètre. Il est droit sous l'armure saxonne. Son cheval, qui connaît ce cavalier, frissonne. Ce cheval noir et blanc marche sans se courber. Il semble que le ciel sombre ait laissé tomber des nuages mêlés de lueurs sur sa croupe. Tiphaine est seul, aucune escorte, aucune troupe. Il tient sa lance, il a la chemise de fer, la hache comme Oreste et comme Gaïfère le poignard. Sa visière est basse, elle le masque. Grave, il avance avec un aigle sur son casque. Un mot sur sa ronde hache est écrit « Belle Lua ». Quand il vint, tout trembla, mais nul ne salua. Les motifs du combat étaient sérieux, certes, mais ni le pâtre errant dans les landes désertes, ni l'ermite adorant dans sa grotte Jésus, personne sous le ciel ne les a jamais su, et le juge du camp les ignorait lui-même. Les deux là, comme ils s'y étaient à ce moment suprême, se parlèrent de loin. « Bonjour, roi, Bonjour, roi. Je vais te demander raison. Tu sais pourquoi? Oh, peu importe. Et tous deux mirent la lance haute. Le juge du camp dit: Chacun de vous est l'hôte du sépulcre et ne peut en sortir maintenant que si Dieu le permet au fond du ciel tonnant. Puis il reprit, selon la coutume écossaise: Milord, quel âge as-tu? 40 ans. Et toi? 16. C'est trop jeune, cria la foule. Combattez, dit le juge. Et l'on fit le champ des deux côtés. Être de même taille et de même équipage, combattre homme contre homme ou page contre page, s'adosser à la tombe en face d'un égal, être Ajax contre Mars, Fergus contre Fingal, c'est bien, et cela plaît à la romance épique. Mais là le brin de paille, et là la lourde pique, ici le vaste Hercule, ici le doux Hylas, Polyphème devant Acis, c'est triste, hélas. Le péril de l'enfant fait songer à la mère. Tous les astyanax attendrissent Homère, et la lyre héroïque hésite à publier le combat du chevreuil contre le sanglier. L'huissier fit le signal: Allez! Tous deux partirent. Ainsi deux éclairs vont l'un vers l'autre et s'attirent. L'enfant aborda l'homme et fit bien son devoir. Mais l'homme n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Tiphaine s'arrêta, muet, le laissant faire. Ainsi, prêt à crouler, l'avalanche diffère. Ainsi l'enclume semble insensible au marteau. Il était là, le poing fermé comme un étau, démon par le regard et sphinx par le silence. Et l'enfant en était à sa troisième lance, que Tiphaine n'avait pas encore riposté. Sur cet homme de fer et de fatalité, qui paraissait rêver au centre d'une toile, pas plus ému d'un choc que d'un souffle une étoile, l'enfant frappait, piquait, taillait, recommençait, tantôt sur le cimier, tantôt sur le corset, et l'on eût dit la mouche attaquant l'araignée. Sa face de sueur était toute baignée. Tiphaine, tel qu'un roc, immobile et debout, méditait, et l'enfant s'essoufflait. Tout à coup, Tiphaine dit: Allons! Il leva sa visière, fit un rugissement de bête carnassière, et sur le jeune comte Angus il s'abattit d'un tel air infernal que le pauvre petit tourna bride, jeta sa lance et prit la fuite. Alors commença l'âpre et sauvage poursuite, et vous ne lirez plus ceci qu'en frémissant. Tremblant, piquant des deux du côté qui descend, devant lui n'importe où dans la profondeur fauve, les bras au ciel, l'enfant épouvanté se sauve. Son cheval l'aime et fait de son mieux. La forêt l'accepte et l'enveloppe, et l'enfant disparaît. Tous se sont écartés pour lui livrer passage. En le risquant ainsi, son aïeul fut-il sage? Nul ne le sait. Le sort est le mystère plein, mais la panique existe. Et le triste orphelin ne peut plus que s'enfuir devant la destinée. Ah, pauvre douce tête au gouffre abandonné! Il s'échappe, il s'esquive, il s'enfonce à travers les hasards de la fuite obscurément ouverts, hagard à perdre haleine et sans choisir sa route. Une clairière s'offre, il s'arrête, il écoute. Le voilà seul. Peut-être un dieu l'a-t-il conduit? Tout à coup, il entend dans les branches du bruit. Ainsi, dans le sommeil, notre âme d'effroi pleine parfois s'évade et sent derrière elle la laine de quelque noir cheval de l'ombre et de la nuit. On s'aperçoit qu'au fond du rêve, on vous poursuit. Argus tourne la tête, il regarde en arrière. Tiphaine le monstrueux bondit dans la clairière. Ô terreur! Et l'enfant, blême, égaré, sans voix, court et voudrait se fondre avec l'ombre des bois. L'un fuit, l'autre poursuit, acharnement lugubre. Rien, ni le roc debout, ni l'étang insalubre, ni le houx épineux, ni le torrent profond, rien n'arrête leur course. Ils vont, ils vont, ils vont. Ainsi le tourbillon suit la feuille arrachée, d'abord dans un ravin, tortueuse tranchée. Il serpente parfois, se touchant presque, puis, n'ayant plus que la fuite et l'effroi pour appui, rapide, agile, les fils d'une race écuyère, l'enfant glisse, et sautant par-dessus la bruyère, se perd dans le hallier comme dans une mer. Ainsi courait Avril, poursuivi par l'hiver. Comme deux ouragans, l'un après l'autre, ils passent. Les pierres sur leurs pas roulent, les branches cassent. L'écureuil effrayé sort des buissons tordus. Oh, comment mettre ici, dans des vers éperdus, les bonds prodigieux de cette chasse affreuse, le coteau qui surgit, le vallon qui se creuse, les précipices, l'entre-obscur, l'escarpement, les deux sombres chevaux, le vainqueur écumant, l'enfant pâle et l'horreur des forêts formidables. Il n'est pas pour l'effroi de lieux inabordables, et rien n'a jamais fait reculer la fureur. Comme le cerf, le tigre est un ardent coureur. Ils vont. On n'entend plus, même au loin, les haleines du peuple bourdonnant qui s'en retourne aux plaines. Le vaincu, le vainqueur, court tragiquement. Le bois, calme et désert sous le bleu firmament, remuait mollement ses branchages superbes. Les nids chantaient, les eaux murmuraient dans les herbes. On voyait tout briller, tout aimer, tout fleurir. Mais grâce, criait l'enfant, je ne veux pas mourir. Mais son cheval se lasse, et Tiphaine s'approche. Tout à coup, d'un réduit creusé dans une roche, un vieillard au front blanc sort et, levant les bras, dit « De tes actions, un jour, tu répondras. Qui que tu sois, prends garde à la haine. Elle enivre, celui qui va mourir pour celui qui doit vivre t'implore. Ô chevalier, épargne cet enfant. » Tiphaine, furieux d'un coup de hache, fend l'âpre rocher qui sert à ce vieillard d'asile et dit « Mais tu vas te faire échapper, imbécile !» Et sinistre, il remet son cheval au galop. Quelle que soit la course et la hâte du flot, le vent lointain finit toujours par le rejoindre. Angus entend venir Tiphaine et le voit poindre parmi les profondeurs d'arbres à l'horizon. Un couvent d'où s'élève une vague oraison apparaît. On entend une cloche qui tinte, et des rayons du soir la haute église à teinte s'ouvre, et l'on voit sortir du portail à pas lents une procession d'ombres en voile blanc. Ce sont des sœurs ayant à leur tête la messe, et leur chant grave monte au ciel où le jour baisse. Elles ont vu s'enfuir l'enfant désespéré. Alors leur voix profonde a dit « Miserere ». L'abbesse les amène. Elle dresse sa crosse entre l'adolescent frêle et l'homme féroce. On porte devant elle un grand crucifix noir. Toutes ces vierges, sœurs qu'enchaîne un saint devoir, pleurent sur le vainqueur comme sur la victime, et viennent opposer au passage d'un crime le Christ immense ouvrant ses bras au genre humain. Tiphaine arrive sombre et la hache à la main, et crie à ce troupeau murmurant « Grâce, grâce !»« Colombe, ôtez-vous de là, le vautour passe !» La nuit vient, Et toujours, tremblant, pleurant, fuyant, l'enfant effaré court devant l'homme effrayant. C'est l'heure où l'horizon semble un rêve et recule. Clair de lune, alliée, bruyère, crépuscule. La poursuite s'acharne, et plus qu'auparavant, forcenée à travers les arbres et le vent, fait peur à l'ombre même et donne le vertige aux sapins sur les monts, aux roses sur leurs tiges. L'enfant sans armes, l'homme avec son couperet, court dans la noirceur des bois, et l'on dirait que dans la forêt spectre, ils deviennent fantômes. Une femme d'un groupe obscur de toits de chaume sort et ne peut parler, les larmes l'étouffent. C'est une mère, elle a dans les bras son enfant, et c'est une nourrice, elle a le sein nu. « Grâce !» dit-elle en bégayant, et dans les vastes espaces, Angus s'enfuit. « Jamais !» dit Tiphaine, inhumain. Mais la femme à genoux lui barre le chemin. « Arrête, sois clément, afin que Dieu t'exauce. Grâce ! Au nom du berceau, n'ouvre pas une fosse. Sois vainqueur, c'est assez, ne sois pas assassin, fais grâce. Cet enfant que j'ai là sur mon sein, t'implore pour l'enfant que cherche ton épée. Entends-moi, laisse fuir cette proie échappée. Oh, tu ne tueras point et tu m'écouteras. Chevalier, puisque j'ai l'aurore dans mes bras, songe à ta mère. Eh bien, je suis mère comme elle. Homme, respecte en moi la femme. Ah bah, femelle, dit Tiphaine, et du pied il frappe ce sein nu. Ce fut dans on ne sait quel ravin inconnu que Tiphaine atteignit le pauvre enfant farouche. L'enfant prit, n'eut pas même un râle dans la bouche. Il tomba du cheval et, morne, épuisé, là, il dressa ses deux mains suppliantes, hélas. Sa mère morte était dans le fond de la tombe et regardait. Tiphaine accourt, s'élance, tombe sur l'enfant comme un loup dans les cirques romains, et d'un revers de hache, il abat ses deux mains qui dans l'ombre élevaient vers les cieux la prière. Puis, par ses blonds cheveux, dans une fondrière, il le traîne. Et riant de fureur, haletant, il tua l'orphelin et dit « Je suis content !» Ainsi rit dans son antre infâme la Tarasque. Alors, l'aigle d'airain qu'il avait sur son casque, et qui, calme, immobile et sombre, l'observait, cria « Cieux étoilés, montagnes que revêt l'innocente blancheur des neiges vénérables, aux fleuves, aux forêts, cèdres, sapins, érables, je vous prends à témoin que cet homme est méchant. » Et cela dit, ainsi qu'un piocheur fouille un champ, comme avec sa cognée un pâtre brise un chêne, il se mit à frapper à coups de bec Tiphaine. Il lui creva les yeux, il lui broya les dents, il lui pétrit le crâne en ses ongles ardents, sous l'armée d'où le sang sortait comme d'un crible, le jeta mort à terre et s'envola terrible.